Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Graphite tous les samedis après Vibras OS. Eh bien, vous nous retrouvez, la fine équipe de Biotine. Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Oise, dans l'Aisne, dans la Somme. Nous sommes le 1er février. C'est encore l'hiver, on n'aime pas ça, mais moi je suis mieux parce qu'il fait un peu plus chaud dans le studio, je ne suis plus seule. Elle est revenue, Carole. Bonjour,
oui,
Carole.
Oui, bonjour Jean-Noël.
Mais la dernière fois c'était qu'en juin, je crois.
C'était en juin, oui,
mais
tout à fait.
Oui, mais après on part faire le tour du monde, évidemment.
Et mais je suis revenue.
Et tu es revenue à Compiègne, ici dans le studio de Graphite, pour ces quelques émissions du mois de février où tu vas m'accompagner quelques semaines parce que toi aussi tu es intéressée par l'actualité scientifique.
Et très intéressé. Dieu sait que l'actualité est riche en ce moment.
Et l'actualité est riche en ce moment. On va voir cela 1er février. L'éphéméride, c'est l'invention de l'aspirine en 1899. C'était un 1er février. Très bien. Et il y avait également le premier lecteur de 45 tours en 1949. Alors, on a encore quelques platines pour certaines émissions vinyles sur Graphite. Eh bien, ça a été créé le 1er février 1949. Je pensais que c'était plus ancien, en fait. En 1958, il y a à la fois la création de l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire, en 58 déjà à l'époque, et le lancement du premier satellite artificiel américain qui s'appelle Explorer One. Nous sommes en 58. Beaucoup plus proche de nous, on s'en souvient peut-être, le 1er février 1999, c'était la disparition officielle du code Morse. C'était fini pour le Morse, pour toutes les communications. Il allait être remplacé par un système satellitaire, le GMDSS, le Global Maritime Distress and Safety System. Bref, c'était la fin du SOS. Avec les codes courts et les codes longs. La fin du Morse en 99. 2002, des scientifiques américains déclarent avoir créé des embryons de singes sans utiliser de sperme pour obtenir des cellules souches qui ont ensuite produit un cœur, un cerveau et d'autres tissus. Ça y est, les apprentis sorciers ont commencé, c'était le 1er février 2002. Et le 1er février 2003, c'était l'accident de la navette spatiale Columbia. Ce qui nous permet de, dans cette éphéméride, à chaque fois on parle d'une naissance et d'un décès. Alors commençons par le décès, donc le 1er février 2003, de Laurel Blair Salton Clark. C'était une astronaute américaine qui était née en 61 et qui est donc décédée en 2003 dans la désintégration de cette navette spatiale Columbia lors de sa rentrée atmosphérique. Elle réalise donc en fait un unique vol. Ce vol a commencé le 16 janvier et est donc devait revenir sur Terre le 1er mars. Et en fait 16 minutes avant son horaire d'atterrissage prévu, eh bien il y a eu cette désintégration où il y a 7 membres d'équipage qui sont morts. Et donc, en mémoire aux 7 victimes, l'Union Astronomique Internationale a nommé 7 astéroïdes qui sont donc baptisés des noms de ces 7 victimes. Il y a également 7 collines découvertes sur la surface de Mars et on les a donc nommées des noms des membres de cet équipage. Et également 7 cratères satellites du cratère lunaire d'Apollo également. Bref, on a voulu rendre hommage à ces astronautes, dont Lauren Blair Salton Clark, qui est décédée un 1er février 2003. Naissance le 1er février 1801, près de Châtillon-sur-Seine, de Jean-Théodore Lacordaire. Entomologiste français installé ensuite en Belgique. Lacordaire était un nom quand même assez connu des biologistes. Malgré son intérêt évident pour l'histoire naturelle, eh bien, sa famille l'envoie au Havre pour étudier le droit. Et en 1824, il s'embarque pour Buenos Aires et il devient commerçant ambulant. Il va parcourir ainsi l'Amérique du Sud et il va profiter de ses déplacements pour réaliser de nombreuses observations sur la faune locale. Il devient en 1835 professeur de zoologie à l'université de Liège, parce qu'il revient du coup en Europe et notamment en Belgique où il va s'installer. Il s'occupe activement des collections de zoologie du muséum de l'université de Liège et à sa mort, le muséum comprendra une collection de 12 000 espèces, dont de très belles séries d'ornithologie et d'ichtyologie. L'ichtyologie, c'est Mais oui, t'es comme moi, je ne me rappelle plus, j'étais personne ne le savait.
Oui, en plus là, je me dis non sur ce sujet.
Je ne sais pas, j'ai un gros doute, c'est pas lié aux insectes peut-être. En tout cas, il publie son introduction à l'entomologie dans les années 1834 à 38, ce qui comprend les principes généraux de l'anatomie et de la physiologie des insectes. Son chef-d'œuvre, c'est l'histoire naturelle des insectes. Jean-Théodore Lacordaire, grand nom de... c'est pas du tout des insectes. Non, c'est en train de charger, mais vous n'avez pas de réseau,
j'ai
c'est
pas
ça
de... Oui, c'est ça. ça y est, c'est une partie de la zoologie qui donc traite des poissons.
Ah, l'ichtyologie, c'est les poissons. Il a touché à tout, en fait. Il a touché donc aux oiseaux, aux poissons et aux insectes. En tout cas, Lacordaire, pour ceux qui ont fait des études de sciences et notamment de biologie animale,
est
un nom
bien sûr.
Comme nous. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'il était né un 1er février, je me dis, on va quand même un petit peu voir un petit peu sa vie. 1801, mort en 1870, donc grand scientifique du 19e siècle, bien évidemment. C'est l'éphéméride du 1er février. 1er février, autre date importante, ce soir à 20h30, le concert de Tété qui se produit à Nauteuil-le-Haudouin. Donc vous pouvez encore vous renseigner si vous souhaitez assister au Musival de Nauteuil-le-Haudouin en contactant le 03 44 88 05 15 ou musival.fr si vous souhaitez essayer de récupérer des places de dernière minute pour le concert de Tété ce soir à 20h. Autre chose, on retrouvera, parce qu'elle est comme toi Carole, elle m'a quitté pendant 2-3 semaines je crois, c'est Anne Fleur pour InnoCity. Elle choisit une ville et elle nous parle des inventions qui ont été créées. On la retrouve tout à l'heure, Anne Fleur. Je crois que nous allons rester dans, j'allais dire l'Union Européenne, non. On va dire l'Europe. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, parce qu'il y a le Brexit apparemment qui
a lieu.
Voilà,
on fait notre grand retour aujourd'hui pour que tu ne te sentes moins seule.
Mais c'est pour ça, oui. Je me sentais seule pendant plusieurs semaines. Je parlais seule au micro. Alors j'espère qu'il n'y avait quand même pas une seule personne qui m'écoutait.
Non, bien sûr que non.
Sait rien. Mais en tout cas, voilà. On a prévu aujourd'hui, Carole, pour cette émission, de parler à la fois de ce qu'il s'est passé à Las Vegas, ce fameux grand festival, je ne sais pas comment l'appeler, ce grand congrès. En tout cas, les nouvelles technologies sont présentées tous les ans début janvier. On n'a pas eu le temps de faire le point, mais là, il y a plusieurs articles qui nous permettent de voir un petit peu ce qui a été présenté. Et autre actualité, Carole, depuis maintenant plusieurs semaines, l'actualité liée à ce qui se passe en Chine et chez nous maintenant. L'Europe est concernée, tous les continents sont concernés par ce coronavirus.
Tout à fait. Donc là, moi, j'avoue que je vais aborder les thématiques assez catastrophistes aujourd'hui. Non, mais après, il faut en parler. Et on va également parler, moi, je pensais commencer par ça, donc de l'horloge de l'apocalypse. Et c'est justement lié. Donc,
mon Dieu.
Peux commencer dès à présent. Et toi, tu nous parleras de choses plus réjouissantes.
Commençons par l'horloge de l'apocalypse.
Oui. Eh bien, en fait, cette horloge, elle affiche seulement 100 secondes avant minuit. C'est tout récent, hein, ça a été, parce que chaque année, donc, c'est mise à jour. Alors, oui. De quoi il s'agit exactement et justement, en ce moment, donc, on parle de ce fameux virus mortel qui se propage dans le monde entier depuis la Chine. Donc, on va en reparler. Il y a des tensions de plus en plus grandes entre les États-Unis et l'Iran, l'Australie ravagée par les flammes. Et des experts, en fait, viennent tout juste de confirmer que l'humanité n'a jamais été aussi proche de sa fin. Donc l'horloge de l'apocalypse, qui sert finalement à acter ce principe, en ce moment maintenant, donc elle n'est plus qu'à 100 secondes avant minuit. Mais rien n'est perdu, n'en déplaise aux collapsologues de tous horizons, il est encore le temps de sauver le monde. Donc c'est au cœur des discussions entre des scientifiques ayant travaillé au projet Manhattan et à l'élaboration de la bombe atomique que l'idée d'une telle horloge est née. En fait, alors qu'ils débattaient des conséquences de cette technologie d'une puissance extraordinaire qu'ils avaient mise au point et de leur responsabilité à en informer le monde, donc en 1947, cela a été créé. Alors qu'à cette époque-là, finalement, la seule menace qui planait sur l'humanité, eh bien, c'était celle d'une guerre nucléaire. Ce qui est déjà quand même une...
Oui, ce qui est quand même déjà pas mal, assez prometteur.
Mais donc depuis 2007, les chercheurs donc, qui s'occupent de ça, du Bulletin of Atomic Scientists, ont été contraints d'ajouter une autre menace, celle portée par le réchauffement climatique. On en parle souvent dans l'émission. Donc l'horloge de l'apocalypse, elle est aujourd'hui réglée par des scientifiques et d'autres experts de la question nucléaire et climatique. Avant de fixer une nouvelle heure, ils consultent donc de nombreux collègues, ils regardent des études et prennent également l'avis de plusieurs prix Nobel. Aujourd'hui, il juge la situation critique, non seulement parce que les deux menaces qu'on vient de citer, hein, ces deux menaces majeures, elles existent, mais aussi parce que les dirigeants de ce monde semblent avoir tout fait durant l'année qui s'est écoulée pour que le risque encouru par l'humanité augmente. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un article qui résume la situation donc, dans Futura Science. Des traités ou des négociations majeures sur la maîtrise encourue par l'humanité, donc et notamment des traités sur les armements, ont ainsi été sapés. Il y a beaucoup de conflits politiques, notamment autour de la Corée du Nord et de l'Iran, qui sont quand même des zones extrêmement tendues, qui n'ont pas été résolues et qui se sont empirées. Et si donc le public a été touché par la crise climatique, les gouvernements ne sont toujours pas prêts à relever le défi. Pire, certains s'appuient désormais sur la puissance des réseaux sociaux pour semer le doute et la méfiance vis-à-vis des alertes lancées par les scientifiques, avec pour seul but, bien sûr, celui de préserver leurs propres intérêts. Donc le tableau n'est pas réjouissant. Et désormais, donc, les chercheurs du Bulletin of the Atomic Scientists estiment que nous sommes plus proches que jamais de la fin du monde, plus proches encore qu'en 1953, au summum de la guerre froide. Alors que les États-Unis et l'Union soviétique possédaient des dizaines de milliers d'armes nucléaires, de plus qu'ils n'en possèdent aujourd'hui, l'horloge de l'apocalypse marquait alors 2 minutes avant minuit.
D'accord.
Donc, des personnes se lèvent pour justement, on va dire, marquer le coup et donc, on va dire, peut-être lancer un petit peu des pistes pour évoluer et qu'on puisse enfin reculer cette heure. Donc, Jerry Brown, qui est ancien gouverneur de Californie, a déclaré lors de la conférence de presse organisée à l'occasion de l'annonce de la nouvelle heure de l'horloge de l'apocalypse « L'heure est grave, mais la fin du monde n'a pas encore sonné. Nous avons la possibilité d'inverser la tendance. Notre avenir est entre nos mains. » Donc bien évidemment, message à destination de tous les gouvernements dans le monde. Et Ban Ki-moon, hein, ancien secrétaire général des Nations Unies, a renchéri en disant « Nous pouvons dépasser les menaces qui planent sur l'humanité, mais nous devons agir ensemble maintenant. » Et d'autres intervenants martelaient « Le passé nous a montré que nous étions capables de changer les choses. Il est temps de le montrer à nouveau. Réveillons-nous. » Alors, parmi les pistes qui sont évoquées par les chercheurs du Bulletin of Atomic Scientists pour faire parvenir à faire reculer l'heure de l'horloge, pourquoi pas 17 minutes avant minuit, ce qui paraît énorme. C'est en fait l'heure qu'elle avait atteint en 1991, au moment où la guerre froide prenait fin. Il y aurait bien sûr donc comme piste la reprise des négociations pour ralentir la prolifération nucléaire au Moyen-Orient et un nouvel engagement de tous les pays à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Et enfin, et j'aime bien cette phrase, il faudrait redonner du crédit aux scientifiques dont le regard objectif doit nous aider à éclairer le monde en ces périodes troubles.
C'est tellement juste. C'est un peu modestement ce qu'on essaye de faire toutes les semaines dans ce micro.
Très en fait, modestement.
J'ai dit très modestement, oui, on est bien d'accord. Mais c'est un peu cette idée. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser. Pour cela, il faut informer. Et évidemment, on voit très bien que sur le réchauffement climatique, toutes les semaines, on parle de cela.
Tout à fait.
Et c'est nécessaire jusqu'à ce que les gens comprennent que ça devient nécessaire. D'un point de vue nucléaire et guerre entre pays, on voit très bien qu'on est sur un baril de poudre. Et donc là, on n'est plus du tout sur des notions scientifiques, on est sur des notions bassement humaines maintenant, et on n'a pas la main dessus. Cette horloge, oui, on en parle assez régulièrement. Je ne savais pas qu'elle existait encore, parce que j'ai toujours l'impression qu'on a dépassé minuit, mais non, en fait, on est encore vivant.
Non, on est encore vivant, mais 100 secondes. Donc,
100 secondes,
ça peut être très
rien.
Court.
Mais surtout si tu disais qu'on était à 17 minutes en 1991. Effectivement, pour ceux qui ont connu cette époque, fin de la guerre froide, fin du communisme, c'est vrai qu'on avait l'impression, enfin quoi, c'était la guerre du Golfe aussi en 91, donc c'était différent, il y a toujours les barils de poudre quelque part.
Oui, mais c'est vrai qu'au niveau global, en tout cas, on est sûrement plus proche d'une catastrophe vraiment mondiale, c'est-à-dire que, évidemment, les guerres qui ravagent différents pays sont terribles, mais c'est-à-dire que là, on est sur des choses complètement, enfin, qui vont concerner tout le monde, en fait.
Oui, c'est ça. On est vraiment tout le monde est concerné. Alors qu'avant,
pas de
c'était
possibilité de fuite dans d'autres pays, non, ou de trouver des solutions ailleurs. Si il y a une catastrophe nucléaire mondialisée, je veux dire, ça impactera. Voilà, exactement.
C'est terminé. Voilà. Écoute, on verra. On essaiera de suivre ça en direct. Hein. La guerre nucléaire en direct sur Graphite, pourquoi pas. On verra. Mais c'est vrai que c'est assez. Voilà, merci d'avoir plombé l'ambiance, Carole.
Et je conseille, parce que je suis en train de terminer de la regarder, même si elle est sortie il y a quelques temps, la mini-série Tchernobyl.
Ah,
elle a fait le buzz quand elle est sortie. Tu l'as vue
Je l'ai vue.
J'ai presque fini, pas de spoil.
On sait très bien comment ça se termine.
Oui, mais...
elle est intéressante, surtout d'un point de vue technique,
oui.
Pour comprendre en fait justement qu'est-ce qu'il s'est passé. Et après, ce qu'il faut, après cette série, il faut aussi s'informer sur ce qu'on a retiré comme conclusion et comme chose pour ensuite faire en sorte que ça soit plus sécurisé. C'est une série extraordinaire.
Mais je trouve que ça a été très bien reconstitué. Les acteurs sont assez bluffants. Enfin, moi, je m'y crois. Hein. J'ai l'impression d'être revenu en 1986. Ouais, c'est assez bluffant.
Et très intéressant aussi un documentaire qui est peut-être un peu plus ancien, qui explique aussi un petit peu le mensonge français par rapport à cette catastrophe de Tchernobyl.
Et au nuage,
de ce nuage qui n'a jamais passé,
traversé la France, bien
qui
sûr.
N'a jamais traversé la frontière. Évidemment. Évidemment, c'est faux. Et ce documentaire aussi qui est intéressant pour... Parce qu'il y a l'aspect purement technique, scientifique, dramatique que présente cette mini-série de Tchernobyl. Et il y a le côté politique derrière, que montre un peu aussi Tchernobyl, d'un point de vue aussi avec Gorbatchev, qui était au pouvoir depuis un an. Et donc, du coup, c'était aussi intéressant de voir comment il a pu s'accaparer cette catastrophe dans cette perestroïka de l'époque et la glasnost. Tout ça, évidemment, ça nous remonte très loin, tout ça. Et aussi, d'un point de vue français, c'était intéressant aussi parce que, voilà, il y avait des intérêts français vis-à-vis du nucléaire. Il y en a toujours aussi actuellement.
Il y en a toujours, bien sûr.
Ça existe encore. Mais voilà, c'était... Si vous avez l'occasion de voir, c'est à la fois Tchernobyl et l'autre... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est le mensonge de Tchernobyl, ou je ne sais plus, en tout cas, c'était très franco-français et c'est très intéressant de se dire qu'est-ce qui se passait à l'époque. On peut se dire que finalement, les attitudes gouvernementales peuvent... Enfin, mon avis ne changerait pas, en fait, quelque part. Et justement, l'intérêt de ce genre d'émission, et l'intérêt c'est de pouvoir vous donner à vous, auditeurs, un petit peu les clés pour comprendre la technologie et de vous faire votre propre avis. Après, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal. C'est vous dire, voilà ce que c'est. Et après, c'est à vous de décider. Après tout, vous êtes aussi citoyen. Enfin, je pense, il paraît. Eh bien, on a bien plombé pendant 16 minutes l'ambiance, Carole.
Et on va un petit peu nous donner du soleil, peut-être, ou de la joie.
Du soleil, de la joie, je ne sais pas. Mais tous les ans, début janvier, il y a le Consumer Electronics Show. En fait, cette espèce de grand salon mondial consacré à l'innovation technologique. 4000 exposants, les Français sont là. Alors, les Français ont fait le buzz, on verra ça tout à l'heure, avec quelque chose de totalement inutile. Utile, c'est-à-dire la pomme de terre connectée.
Mais, j'ai hâte d'en savoir plus.
Non, je n'en parlerai pas, je vais vous parler d'autre chose. C'est-à-dire, tous les ans, il est intéressant de voir un petit peu les prototypes et ce qui va ensuite être dans nos maisons. On parlait il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, pas tant que ça, des smartphones pliables. Maintenant, ça commence à être commercialisé. Bon, c'est un petit peu cher. Et donc là, alors quelque chose de totalement évident, mais qui, du coup, va pouvoir être développé, c'est la télévision verticale. C'est-à-dire qu'on est confronté de plus en plus à l'utilisation de notre smartphone qui devient maintenant de plus en plus aussi un écran et notamment un écran de télévision. Sauf qu'on l'utilise d'une façon verticale. Eh bien, on a maintenant un téléviseur qui s'appelle The Zero, qui est donc un téléviseur qui peut être à la fois en mode portrait, donc le mode habituel de nos télévisions, et en mode vertical. Le but, c'est de permettre de balancer l'image du smartphone directement sur le téléviseur. Si vous avez en plus un smartphone Galaxy, ça se met automatiquement. Ça marche également avec les autres, notamment iPhone ou autres, ça fonctionne. Et donc l'idée, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir l'orienter en mode paysage, donc plus classique. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir l'orienter en mode vertical, donc mode un petit peu plus smartphone. Ça se fait d'une façon automatique, il n'y a rien à faire, ça reconnaît automatiquement à partir du moment où vous avez connecté votre téléphone directement sur cette nouvelle télévision verticale. Et voilà, vous allez pouvoir maintenant essayer de lire votre fil Twitter et votre fil Facebook. Je rappelle que vous avez même la possibilité de suivre le Facebook de Graphite directement. Maintenant, vous pourrez le voir directement avec ça. Alors, ça paraît simple au départ. On se dit même, tiens, pourquoi on n'y a pas pensé ? Moi, je me rappelle d'anciens collègues qui avaient mis leur écran d'ordinateur en version verticale parce que c'était plus facile à lire parce qu'on était sur des pages de lecture.
Ou pour faire des petites blagues aussi.
Je ne pensais pas aux petites blagues. Moi, je pensais sérieusement, mais voilà. Maintenant, ça se fait d'une façon un peu automatique. Ça a été présenté à Las Vegas. D'autres choses également qui ont été présentées. Alors, la tablette maintenant pliable. Je vous parlais des téléphones portables à écran pliable. Maintenant, c'est la tablette. C'est plus grand, c'est plus fort, c'est plus maintenant confortable. On n'a pas trop d'idée du prix. On a également des vélos électriques qui planent sur l'eau qui ont été présentés. Ça aurait été utile récemment pendant les grèves.
Je l'aurais pris avec plaisir.
On traverse la Seine tranquillement, ça aurait pu le faire. Il y a également un pare-soleil qui ne bouge pas la vue qui a été présenté. Ça permet de protéger le conducteur de l'éblouissement, bien sûr. Et ça a été inventé par Bosch. En fait, ce pare-soleil, il est doté d'une caméra qui filme le visage afin de déterminer les zones à assombrir pour éviter que le soleil ne frappe les yeux du conducteur. C'est extraordinaire. Maintenant, on aura notre pare-soleil. Et on aura aussi une application qui transforme n'importe quelle surface en clavier. Ça aussi, ça a été développé notamment par Samsung, une espèce de clavier virtuel qui donc permet de transformer n'importe quelle surface en clavier. Il suffit d'agiter ses doigts et l'application détecte les mouvements. Donc vous pouvez mettre ça sur une table, vous pouvez mettre ça sur n'importe quoi à partir du moment où c'est plat. C'est ça l'intérêt, vous n'avez plus besoin de vous trimballer avec un clavier. Donc ça, c'est des choses plutôt intéressante, on va dire, un petit peu innovante. Il y a des choses un petit peu plus, loufoques, voire inutiles. On verra ça juste après un titre et on se retrouve juste après sur l'antenne de Graphite. À tout de suite, c'est parti. Presque. C'est parti. Try to see clearly.
Yes, I'm falling down through the crowd. Yes, I'm falling down, lying in my bed. Keep my eyes closed, try to find some peace of mind. I know things won't change. I gotta change. It's like a loop, start again and again. Try to find some peace of mind. And I know things won't change, but I gotta change. It's like a loop, start again and again, again and again, again and again. Again and again, again and again, again and again, again and again, again and again.
Graphite 94.9 FM, vous nous écoutez aussi sur graphite.net.
Et c'était Wadi de Masto sur l'antenne de Graphite. Carole, un peu de médecine, un peu de biologie pour comprendre cette situation vis-à-vis du coronavirus.
Oui, donc on avait promis, oui, on avait promis d'en parler. Et donc j'ai bien sûr lu avec attention ces dernières semaines de nombreux articles sur le sujet du coronavirus, donc importé de Chine. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Mais made in China.
Made in China et tout ce qui est made in China, dis donc, faudrait peut-être un peu arrêter. Hein. Mais non, alors plus sérieusement, hein, cette épidémie de coronavirus qui au départ donc sévissait en Chine, eh bien, elle fait se poser des questions à l'ensemble de la communauté scientifique, hein, du monde entier, d'autant plus que, bien sûr, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Alors, il y a eu tout un travail de recherche par notamment une équipe de l'INSERM visant à élaborer en fait des scénarios de diffusion possible de l'épidémie pour un petit peu pouvoir guider les autorités sanitaires dans la prévention et la surveillance du virus qu'on appelle donc 2019-nCoV, même si bien sûr ce ne sont que des outils théoriques et pas purement prédictifs. Mais c'est vrai que à l'époque où maintenant on peut voyager dans tous les continents en quelques heures, ça devient vraiment des modèles indispensables puisque on se demande tous voilà, la direction que ça va prendre. Et c'est vrai que pouvoir l'anticiper apportera certainement des moyens de réaction beaucoup plus rapides qu'il y a pu avoir par le passé. Hein. On repense tous donc au virus du SRAS qui est de la même famille et qui avait fait donc de nombreux morts en Chine. Alors, on se pose toujours à l'heure actuelle des questions hein, sur l'origine de ce virus, même si des réponses commencent à être apportées par la communauté scientifique. J'en reparlerai dans une deuxième partie hein, pour évoquer un peu plus toutes les questions qu'on peut se poser en termes de santé sur ce nouveau virus. Alors, on le sait déjà, en quelques semaines, de nombreux cas ont été exportés depuis la Chine, dans tous les pays alentours, mais également aux États-Unis, désormais en Europe. Et donc des chercheurs INSERM, sous l'égide du groupe de recherche Reacting, eh bien, travaillent pour développer des modèles de diffusion possibles, et notamment pour cette épidémie. Donc sous la direction de la chercheuse INSERM Vittoria Colizza, au sein de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie de la santé publique, donc INSERM Sorbonne Université, eh bien, l'équipe a été en mesure de proposer en fait un modèle permettant d'anticiper l'arrivée de l'épidémie en Europe afin d'orienter, comme je le disais, les mesures de surveillance et de prévention. Évidemment, hein, ce modèle ne constitue en aucun cas une prédiction du nombre de cas à venir sur le territoire français européen, simplement un outil théorique d'aide à la décision publique. Donc en fait, dans ce modèle, globalement, il y avait deux scénarios. Un scénario à faible risque de diffusion, se basant sur l'état de la situation, c'est-à-dire le nombre de cas qui étaient connus à ce moment-là et exportés hors de Chine, qui était au nombre de 7, avant que la quarantaine aérienne ait été décidée par le gouvernement chinois. Et donc, dans ce cas de scénario faible, était estimé en fait un risque d'exportation d'au moins un cas en Europe si 7 cas étaient exportés depuis les provinces chinoises affectées par l'épidémie dans les prochaines semaines. Donc pareil, ça a été calculé hein, combien de jours exactement, ils ont eu des chiffres beaucoup plus précis. Et un deuxième scénario, le scénario à haut risque de diffusion de l'épidémie, qui proposait donc une estimation de ce même risque si 3 fois plus de cas étaient exportés de Chine. C'était un choix arbitraire, mais qui permettait d'avoir, j'imagine, une fourchette plus haute et qui reflétait le fait que le nombre de cas chinois ne cessait d'augmenter. Donc il fallait essayer d'anticiper ce phénomène et donc anticiper une exportation plus massive de nombre de personnes infectées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en conclusion de ce modèle, il y avait une prédiction sur les pays d'Europe les plus exposés. Et on va le voir, ce n'est pas forcément ensuite ce qui s'est passé dans la réalité.
D'après... C'est comme Tchernobyl, ça ne passe pas par la France.
Bien sûr, la France est toujours beaucoup plus protégée que les autres pays. Donc d'après les chercheurs, le risque qu'au moins un cas soit importé en Europe dans le premier scénario, eh bien, il était de 33% et de 70% dans le cas du deuxième scénario. Donc on voit bien le scénario faible, le scénario à haut risque. Étant donné les flux aériens, les pays les plus exposés apparemment étaient l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et le risque qu'un passager infecté arrive en France était lui de 5% dans le scénario faible et de 13% dans le scénario à haut risque et se concentrait surtout sur les aéroports de la région parisienne. On peut voir que... non mais c'est intéressant de voir aussi comment il faut continuer à travailler sur ces modèles pour qu'ils deviennent de plus en plus réalistes et prédictifs. Donc le premier cas européen officiellement est arrivé donc en France et en effet après par contre à l'aéroport de la région parisienne ça paraît logique, c'est quand même là où transite le plus de vols donc ça peut paraître assez évident. Et non pas donc l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc comme quoi on peut donner des tendances, mais après évidemment concrètement, la France étant le premier pays européen officiellement touché, à voir comment peut-être continuer à travailler sur ces modèles pour qu'ils soient de plus en plus exacts. À noter aussi, je ne sais pas du tout si ça avait été pris en compte, c'est pas précisé dans l'article, mais en fait Wuhan, donc la ville et puis après plus largement la région d'où est partie donc l'épidémie, est aussi un endroit où énormément de Français travaillent. Il y a beaucoup d'industries automobiles en fait dans cette région et donc on peut aussi imaginer, enfin j'ai lu beaucoup d'articles qui expliquaient tous les Français qui vivaient là-bas, etc. Donc on peut aussi imaginer que, est-ce que ce facteur a été pris en compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup plus de raisons pour des Français de revenir en France, notamment au moment du Nouvel An chinois et donc un peu en amont, c'est-à-dire qu'avant que les liaisons aériennes aient été coupées, que peut-être des gens d'autres nationalités qui sont moins représentés dans cette région-là.
Bien, eh bien, ok, à suivre. On fait une petite pause pour partir à Londres cette
justement,
fois.
Justement, le Royaume-Uni.
Ben voilà, le Royaume-Uni cherche une transition, mais je ne l'ai pas. Et du coup, eh bien, on va retrouver Anne Fleur pour InnoCity. Que s'est-il passé à Londres ? Bonjour Anne Fleur. Anne Fleur, où es-tu ?
Good morning.
Ah, la voilà.
Bonjour Noël, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine.
Très bien.
De mon côté, tout va bien, je suis désolée, j'ai la voix un petit peu cassée, j'ai un petit rhume, c'est l'hiver, c'est normal. Alors aujourd'hui, je vous amène, pas forcément d'ailleurs au soleil, aujourd'hui on part de l'autre côté de la Manche, direction Londres, en Angleterre, pour découvrir différentes inventions et leur histoire et comment... elles ont pu contribuer à la création de ce joli pays qu'est l'Angleterre. Alors la première invention dont je vais vous parler, il s'agit du plus hipster de tous les sports, et en fait qui a ses racines à Londres, il s'agit du tennis de table. Sachez-le, c'est en fait un sport que l'on doit aux Victoriens, qui en fait s'amusaient à se balancer des balles, chacun son truc, d'un côté à l'autre de la table du dîner. Chaque côté de la table du dîner, donc tennis de table, ok compris. Et en fait, le jeu est devenu formellement un jeu qui a pris un nom officiel, etc. Il a été donc formalisé par Monsieur John Jacques III en 1901. Donc voilà, c'est pas complètement tout jeune. La seconde invention dont je vais vous parler, c'est ce que l'on appelle en anglais un hole in the wall, donc un trou dans le mur. Et un trou dans le mur, c'est quoi ? Et bien en fait, c'est un distributeur de billets. Alors, je vous en avais parlé un petit peu avec les banquiers à New York. Et en fait, le tout premier ATM, donc distributeur de la planète, il a été installé juste à la sortie de Barclay en 1967. Et alors son inventeur, c'est John Shepherd Barron. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a eu l'idée de créer ces distributeurs de billets. Il a été en fait inspiré de tout ça par les machines de vente de chocolat. Et voilà, je trouvais que c'était rigolo. La troisième invention dont je vais vous parler en ces temps de grève, alors je ne suis pas l'actualité française de super près, mais enfin, on entend quand même parler pas mal souvent des grèves et notamment du métro à Paris. Eh bien, sachez que donc, le métro londonien qui s'appelle The Tube est en fait un des tout premiers métros de sa génération dans le monde. Donc ce qu'on appelle le London Underground. Donc en fait, la prochaine fois que vous êtes soit coincé dans le train, donc dans le métro, dans le noir entre deux stations pendant un trajet un peu long, eh bien, considérez-vous chanceux d'avoir réussi à passer la moitié de votre journée au mieux dans une invention en fait si historique. London Underground en fait était un des tout premiers de son genre et la ligne métropolitaine en fait a commencé en 1863 et elle faisait à peu près 4 miles entre, alors si vous connaissez Londres, c'était entre Paddington et Farringdon Street. Et voilà, donc c'est un peu un grand merci aux Anglais qui nous ont introduits au monde du métro. Bien sûr, je ne peux pas vous parler des inventions anglaises sans parler de la cuisine anglaise qui ne plaît pas toujours mais qui reste tout autant typique et connue dans le monde entier. Alors, je ne vais pas vous reparler des puddings douteux que l'on retrouve en Angleterre, mais je voulais juste vous mentionner une invention qui m'a fait un petit peu sourire, qui s'appelle le Scotch Egg. Alors, le Scotch Egg, c'est quoi en fait ? C'est un œuf qui est à l'intérieur d'une saucisse. Ils sont quand même très très bons ces Anglais. En fait, donc la Fortnum & Mason, qui est donc ce supermarché royal absolument divin et mondialement connu, eh bien, ils ont eu cette idée en 1738, donc ça date un petit peu à nouveau, de mettre un œuf dans une saucisse frite et panée. Sympa, un truc un peu léger pour se réveiller le matin. Et en fait, ils appelaient ça la poupée russe du snack. Et en fait, donc poupée russe, puisque bah, voilà, c'est comme une poupée russe, c'est-à-dire qu'on ouvre le premier, qui est donc une saucisse, et on y retrouve à l'intérieur autre chose. Voilà, je trouvais que c'était rigolo de faire un petit clin d'œil à la cuisine et à la gastronomie anglaise, qui bien sûr ne se résume pas à cette invention, mais ça montre un petit peu cet esprit innovant, qui n'a clairement pas peur de surprendre en fait, et bien sûr que l'Angleterre ne se résume pas à cette recette, mais je trouvais que voilà, l'esprit d'innovation du pays se retrouve quand même bien dans la manière dont on innove. Sur ce, je vais vous laisser tranquille, je vais essayer d'aller retrouver ma voix. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Je vous laisse en bonne compagnie avec Jean-Noël pour la suite de l'émission. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.
Merci Anne-Fleur. Oui, repose-toi. Je ne suis pas seule Anne-Fleur, il y a Carole qui est avec moi également pour Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur graphite.net, oui. Et 94.9 oui. Pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, InnoCity, donc Dan Fleur qui nous parle du tennis de table. Je ne savais pas que c'était créé là-bas parce que on associe quand même plutôt le tennis de table aux pays asiatiques et notamment aux Chinois qui sont très forts. Magnifique transition pour continuer sur le coronavirus.
Sur le coronavirus,
parce que,
oui.
Là, voilà, on était sur la partie un petit peu, on va dire, simulation, prédiction. Mais concrètement, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment s'en protéger ?
Oui, et alors déjà, les questions principales qu'on se pose pour savoir d'où il vient, quels sont les symptômes, en effet, est-ce qu'il est mortel ? Donc on va passer ça en revue avec les informations dont on dispose et qui évidemment vont évoluer, puisqu'on le sait, à ce niveau-là, ça peut très très vite évoluer. Et comme c'est un nouveau virus, on imagine que de nombreuses équipes travaillent d'ores et déjà dessus. Peut-être d'ailleurs qu'il donnera lieu à plus tard à un vaccin ou voilà. En tout cas, là, on sera vraiment dans un plus long terme en tout cas. Alors, ce virus déjà qui est nouveau, il ressemble au SRAS. On s'en souvient, virus qui avait frappé donc la Chine vers 2002-2003, pardon. On se demande bien sûr, est-ce qu'il est aussi dangereux ? Que faire ? Donc, un petit point, d'après les informations qui ont été compilées par Science et Avenir, parce qu'en effet, hein, le mystérieux coronavirus parti du centre de la Chine a très rapidement gagné les métropoles géantes du pays le plus peuplé du monde. Et il s'est également donc propagé, comme j'en parlais juste avant, dans le reste du monde. Depuis qu'un expert chinois est bien confirmé, donc c'était le lundi 20 janvier, qu'il se transmettait entre humains. Car oui, on le rappelle, hein, au tout début, l'inquiétude était quand même relativement basse. Et même en termes de comportement de prévention en Chine, hein, les gens de là-bas le disaient bien, on pensait qu'il ne se transmettait que de l'animal à l'homme. Et toute la problématique est quand on peut bien sûr confirmer qu'il se transmet entre êtres humains. Alors, quelle est son origine ? Donc, jamais observé jusque-là, ce virus, il appartient à la famille donc, des coronavirus et il a été officiellement identifié en Chine le 7 janvier suite à un cas de pneumonie déclaré le 31 décembre 2019. Donc on remonte un petit peu le fil. L'Organisation mondiale de la santé explique sur son site que les coronavirus sont zoonotiques, ce qui signifie qu'ils sont transmis entre les animaux et les humains. Et c'est le 7e coronavirus capable de donner des manifestations cliniques chez l'humain. C'est ce qu'explique Arnaud Fontanet, responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur de Paris, à l'AFP. Alors, on imagine bien que ce service-là doit travailler à fond sur le coronavirus en ce moment. Hein. Ils ont de quoi faire.
Ils ont de quoi faire.
Son origine, d'après les recherches, eh bien, elle se trouve dans un marché de Wuhan. C'est une ville chinoise de 11 millions d'habitants, petite ville, qui a été ensuite fermé. En fait, il est fermé le marché depuis le 1er janvier. Donc ça a été vraiment fait très en amont, bien avant qu'on ferme les villes, qu'on coupe les liaisons aériennes, etc. etc. On suppose, indique le professeur Fontanet, hein, que la source était des animaux vendus dans ce marché et qu'il y a eu passage chez l'homme, bien qu'on ne sache pas encore lequel. Parce que, je le rappelle un peu rapidement, en fait, donc on le sait, il y a des animaux qui sont des réservoirs à virus, notamment, et c'est un des soupçons, la chauve-souris, qui est un énorme réservoir à virus. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un modèle qui est de plus en plus étudié et qui est passionnant. Sauf qu'en fait, ça ne peut pas passer directement de la chauve-souris à l'homme. Il faut ce qu'on appelle un autre animal. Et alors là, dans un premier temps, c'est le serpent qui avait été évoqué. Pour toute personne qui a un petit peu voyagé en Chine et qui a eu envie de faire une petite visite touristique dans un marché très traditionnel, c'est vrai qu'il y a encore là-bas une culture, on va dire, de vente de certains animaux qui, pour nous, ça nous paraît extrêmement étrange. On n'aurait pas l'idée. Mais donc, c'est vrai que ça, c'est pas un hasard hein, si c'est là-bas que se sont développés comme ça certains virus et qu'il y a eu certaines transmissions. Il y a quand même des conditions d'hygiène, mais enfin surtout de présentation de certains animaux sauvages, etc., qui n'existent plus chez nous, qui n'ont jamais existé d'ailleurs. Et il y a aussi une population qui est extrêmement importante et qui vit dans, on va dire, une proximité très grande aussi. Donc tous ces facteurs-là, quand même, voilà, me permettent de poser le contexte. Donc à voir si ce sera confirmé et si on identifiera bien donc, un départ depuis la chauve-souris vers le serpent, donc, ou peut-être un autre animal sauvage, mais en tout cas, ce sera un animal sauvage, certainement, et ensuite transmission à l'homme. Alors, quels sont les symptômes ? Pour savoir voilà, si déjà on doit être alerté ou pas. Donc ce virus, il est proche de celui qui avait provoqué l'épidémie de SRAS. Je rappelle, SRAS, ça veut dire syndrome respiratoire aigu sévère. On est sur des pathologies respiratoires. Et le SRAS avait fait 774 morts dans le monde, donc 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong. Donc Hong Kong avait quand même été très, très touché. Du point de vue génétique, en fait, il y a 80% de similarité entre les deux virus. Et tous deux entraînent des pneumopathies, donc des maladies respiratoires. Alors, ce type de virus, à la base, peut provoquer des maladies bénignes chez l'homme de type rhume, mais bien sûr, des syndromes et des symptômes beaucoup plus graves. Les symptômes du SRAS, ils ressemblent à ceux d'une pneumonie, avec une forte fièvre et divers problèmes respiratoires. Les signes d'infection courants comprennent donc les symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, l'essoufflement, les difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et bien sûr même la mort. Donc ça, ça a été bien détaillé par l'OMS. Et à l'heure actuelle, de toute façon, à partir du moment où on présente, on va dire, des symptômes un peu de type grippeux, il est conseillé
de consulter
et j'allais dire s'il y a alors parce que j'ai eu des informations en off ayant des personnes travaillant dans le milieu médical et qui donc ont des consignes, évidemment que les patients vont être interrogés par les médecins pour savoir s'il y a eu notamment des séjours en Chine récents. L'incubation, le temps d'incubation du virus à l'heure actuelle, il est pas très précis, mais on dit entre 2 et 12 14 jours, ce qui est quand même une grande fourchette.
Ouais.
Donc voilà, il va y avoir tout cet interrogatoire qui va être fait et c'est d'ailleurs comme ça que les premiers cas ont été identifiés en France par un bon interrogatoire de la part notamment d'un médecin d'SOS Médecins. Et donc dans ce cas-là, il faut appeler le 15 et c'est le 15 qui prendra en charge directement la personne.
Mais comment on peut savoir que c'est le coronavirus ?
Alors, on va en parler.
Parce que c'est très anxiogène, en fait, c'est pour ça.
En fait, on est capable d'ores et déjà, et c'est ce qui a été extrêmement rapide, de l'identifier. J'en parle juste un petit peu plus tard. Pour déjà te rassurer, est-ce que le virus est mortel ? Parce que du coup, on a parlé quand même de cas de mort dès le départ, donc c'est ça qui était aussi assez anxiogène. Eh bien, les premiers patients qui sont décédés donc en Chine, ils avaient une soixantaine d'années, ou plus d'ailleurs. C'est aussi pour ça, c'est des personnes vulnérables et qui forcément avaient plus de risques de complications et d'avoir des états graves. Néanmoins, le professeur Fontanet dit qu'on n'a pas vraiment d'argument pour dire que ce virus va muter, parce que c'est ce qui s'est passé donc avec le SRAS, dont le virus avait évolué après son apparition pour devenir plus transmissible et plus virulent. C'est ça la grande crainte en fait derrière. Toutefois, pour ce professeur, envisager un même scénario pour le nouveau virus, ça reste pour l'instant purement spéculatif. Donc on a aussi bien sûr des cas de personnes qui ont guéri et on peut imaginer qu'évidemment si on était en bonne santé au départ, ça va aider.
Bien sûr.
Donc à voir, pour l'instant, il n'y a pas de... Ils sont très prudents sur ce point-là. Donc le virus peut être mortel, mais dans quelle mesure ? Est-ce qu'il va devenir plus virulent ? Voilà, c'est en train d'être observé. Alors, au niveau des cas recensés, et c'est ça aussi qui faisait un peu monter l'inquiétude, c'était limité à une quarantaine de cas au départ, donc avant le 18 janvier. Et ensuite, bien sûr, le nombre de cas connus en Chine et dans le monde a augmenté très, très rapidement. Et principalement au départ, quand même, chez des personnes ayant séjourné auparavant à Wuhan, donc en Chine. Et ensuite, de personnes très, très proches, côtoyant ces premières personnes infectées. Donc c'est pour ça, ça reste quand même limité à ce cercle-là. Le professeur Fontanet estime que par rapport au SRAS, hein, l'une des premières différences, c'est la transparence de la Chine vis-à-vis de l'OMS. Ça n'avait pas été le cas avant. Elle avait essayé de cacher, de sous-estimer les résultats. Donc là, ce n'est pas le cas. Les autorités sanitaires chinoises ont accompli un tour de force en repérant un problème justement anormal, en repérant que c'était en cours au moment des premiers diagnostics, donc mi-décembre en fait, si on remonte la chronologie. Et puis en faisant la relation entre ses patients et le marché. En outre, la Chine a rapidement réalisé et partagé avec le reste du monde la séquence génétique de ce nouveau coronavirus. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu mettre au point un test spécifique pour identifier les cas. Voilà, on est capable de l'identifier. Ça a été fait par différents scientifiques justement de par le monde à partir du moment où donc les résultats ont été transmis. Et la France a rapidement d'ailleurs pu se doter des outils pour pouvoir bien vérifier que c'était ce virus-là et donc identifier les cas. Alors, comment se transmet ce virus ? Eh bien, par contagion entre personnes. Donc ça a été, comme je l'ai dit, bien affirmé, confirmé le 20 janvier par un scientifique chinois, Zhong Nanchan, à la télévision publique. Et c'est la première fois qu'une telle affirmation est faite publiquement. Parce qu'avant, oui, c'est des choses qu'on a un peu du mal à dire.
Bien sûr.
L'OMS, elle statue sur le fait qu'une transmission est possible, mais limitée d'humain à humain par contact étroit. Donc, il faut quand même être vraiment en contact. Que faire pour contenir cette épidémie ? Bien, il faut trouver sa source, c'est-à-dire les animaux qui sont les réservoirs du virus, comme j'en parlais précédemment. Cela pourrait permettre de savoir si des foyers existent dans d'autres marchés et prendre de nouvelles mesures. Hein. C'est vrai que ce serait bien que ça ne se redéclenche pas à d'autres endroits. Justement, pour le SRAS, c'était en interdisant la consommation des civettes, le mammifère dont la viande était appréciée en Chine, et en fermant les fermes d'élevage qu'on avait pu prévenir toute réintroduction du virus. Parce que bien sûr, là, on pense à cette première phase, mais il faut aussi bien sûr penser à la suite. Alors, que faire justement pour... on peut finir par quelques conseils de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la propagation et l'infection liée au virus, surtout en ces périodes hivernales? Eh bien, se laver régulièrement les mains, se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, et bien sûr, cuire de manière minutieuse sa viande, ses œufs, et éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de maladies respiratoires tels que toux et éternuement. Alors ça, c'est les recommandations de l'OMS.
Des recommandations pleines de bon sens.
Pleines de bon sens et qui, j'ai envie de dire, s'appliqueraient en fait pour tout virus hivernal.
Parce que c'est un peu la grippe qui... on a les mêmes conseils.
Exactement. Alors, il faut savoir qu'en France, on n'est pas dans un pays où c'est culturel de porter un masque quand on est malade, contrairement à certains pays d'Asie. Je pense vraiment au Japon en tête de liste, mais aussi à la Chine, qui le fait quand même de manière assez rapide. Et c'est aussi pour ça que chez nous, ça se propage quand même assez vite, hein, quand on a d'un coup des épidémies de gastro, des épidémies de grippe. C'est aussi un des moyens qui permet de prévenir, parce qu'en fait, c'est par les gouttelettes qui vont être envoyées lors des éternuements et lors de la toux qu'on va être infecté via nos voies respiratoires. Donc en effet, si on a des vrais masques de protection, on voit bien que ça met quand même une barrière assez importante et bien évidemment des règles d'hygiène de bon sens. Mais il faut peut-être réfléchir aux prochaines grandes réunions qu'on a tous de prévues. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on on fait un petit peu d'isolement social? À voir.
On a déjà fait de l'isolement social avec les grèves.
Avec les grèves. Mais finalement, les grèves peuvent peut-être empêcher la propagation d'épidémies. Hein.
C'est vu comme ça, effectivement, ça donne une très bonne raison de faire grève. Effectivement. Pourquoi coronavirus? Ça a un lien avec la bière?
Non, absolument pas. En plus, je réfléchis. C'est le pire. C'est que quand tu me dis un truc comme ça, je me dis c'est sérieux et je réfléchis.
Non. C'est un virus qui a une forme de couronne.
Exactement, tout à fait. Non, mais... c'est beau comme ça. C'est-à-dire qu'on, d'ailleurs,
ça donne envie de la voir.
Quand on le voit, j'ai pas de photos. Là, je peux pas montrer, on est à la radio. Mais j'ai vu des belles photos du virus. Il a plein de jolies couleurs parce que justement, on peut regarder comme ça les bien différentes sûr. Parties. Il a été coloré pour que les scientifiques l'observent au microscope. Donc, je vous incite à aller voir. Et c'est vrai qu'on se dit, oh, qu'est-ce que c'est joli. Ça ressemble presque à une petite fleur. Mais on n'a pas du tout envie de l'accueillir et de... Voilà, non, non, non.
Effectivement, vu sous cet angle. Et merci Carole pour cette un point complet sur ce coronavirus. On suivra bien sûr l'actualité, on verra ce que ça va donner. Mais effectivement, on a un petit peu l'impression que on s'est alarmé beaucoup plus rapidement que les cas précédents.
Exactement.
Peut-être qu'enfin, on a pris conscience que ça pouvait être assez grave et que voilà, les premiers articles datent de début janvier, enfin, je crois la semaine du 6 janvier, oui. Je crois que il y avait déjà un article en disant il y a un cas. Enfin, je me souviens d'avoir vu, moi personnellement, c'était sur le site de France Info. Je vois cet article-là, je dis tiens, c'est étonnant. Et après, ça a pris bien sûr une ampleur assez importante. On suivra ça bien sûr, mais là, en tout cas, protégez-vous, faites attention. Je vous avais promis pour finir cette émission de faire un petit peu le bêtisier. Parce que moi, alors autant aujourd'hui, Carole, tu nous as parlé de choses assez
sérieuses,
dramatiques, voilà, qui sont assez anxiogènes. Autant alors moi, je suis resté à Las Vegas.
Tu as bien raison.
Parce que finalement. Avec le recul, à Las Vegas, bon, tous les ans, on en parle dans cette émission, hein, Biotine, sur l'antenne de Graphite, on parle toujours un petit peu de ce qui a été présenté à Las Vegas. Autant, il y a des années, on se rend compte qu'il y a vraiment des choses importantes, où on voit qu'il y a vraiment une bascule, une rupture technologique. Autant, cette année, franchement, enfin, je vous ai montré un petit peu, enfin, évoqué tout à l'heure le meilleur, c'est-à-dire une télévision qui se met en format portrait, une tablette pliable. Enfin, après tout, les téléphones sont déjà pliables, même si on l'enlève. Pas tous parce que c'est quand même encore assez cher, mais en tout cas, voilà des vélos qui planent sur l'eau, tout ça. On se dit que finalement, l'année 2020 n'aura pas été un bon millésime au niveau de la technologie. Ça arrive, hein, c'est pas toujours comme ça. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer qu'on évoquera bientôt. Puis alors, il y a le bêtisier également que nous propose Futura Science par rapport à ce grand gala de Las Vegas, le dossard qui va permettre de comprendre pourquoi notre Labrador se met à aboyer sans raison. Eh bien, là, on lui met cette espèce d'harnais qui s'appelle Inupati et qui va capter les battements de cœur de notre chien pour essayer de déterminer s'il est heureux, intéressé, excité, stressé, bref, pour essayer de nous signaler son humeur avec un code couleur. C'est une entreprise japonaise qui a mis en place cette espèce de harnais de dossard qui s'adapte à toutes les tailles, du chihuahua au Saint-Bernard, nous dit-on. Très bien, en admettant qu'ils aient également les mêmes émotions et qu'ils partagent également la façon de l'exprimer pareil. Bref, on a compris que c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Alors, il y a également cette espèce de robot, on dirait une espèce de boule une boule de poils, mais qui n'a pas de tête et qui ronronne. Bref, c'est un robot chat, mais qui n'a pas de tête. Et on a créé ça parce que certains sont allergiques aux poils de chat et du coup, pour essayer d'avoir la sensation d'avoir quelque chose qui ronronne, on a créé ce robot qui va permettre justement de pouvoir, notamment pour les personnes seniors qui n'ont donc pas nécessairement bien la possibilité de pouvoir, comment dirais-je, gérer un chat, un animal, mais avoir cette sensation de quelqu'un qui ronronne, eh bien, c'est encore un japonais, une entreprise japonaise qui a créé ce petit Kubu qui peut tenir dans un sac à main. Donc, tu peux transporter ton chat sans tête dans ton sac à main. Effectivement, ça ne sert à rien. Autre chose qui ne sert à rien, mais qui a quand même été présentée à Las Vegas, il y a eu un frigo déjà qui se... Alors ça existait. Un frigo qui se déplaçait. En fait, ça te permettait, mais moi je vais avoir ça chez moi, ça te permettait d'apporter ta bière sur le canapé directement. Donc le frigo se déplace et apporte ta bière. Ta bière ou autre chose, bien évidemment. Le CSA nous écoute, hein, à consommer avec modération. Eh bien, la même chose existe maintenant. Et ça, je trouve que c'est quand même assez ingénieux par le fabricant de papier toilette, Charmin, qui a songé aux étourdis, qui n'ont pas pensé à faire le plein de papier toilette avant d'aller au petit coin. Et du coup, quand tu es sur le siège et que tu te retrouves dépourvu de papier, eh bien, tu vas pouvoir... Alors, il faut avoir le smartphone avec soi, mais enfin, maintenant, tout le monde emmène ses smartphones aux toilettes, donc du coup, tu vas pouvoir appeler ce petit robot qui s'appelle le Rollbot et qui va courir à ta rescousse pour essayer d'apporter un rouleau au cas de besoin. Ça ne sert à rien et c'est quand même présenté à Las Vegas. Autre chose, tu parlais tout à l'heure de ces masques pour pouvoir se protéger. Il y a des masques filtrants transparents qui ont été développés également. Donc c'est la même fonction, sauf qu'ils sont transparents, donc c'est plus esthétique. Et ça a été développé par, non, c'est pas un japonais, une start-up américaine, pardon, qui, en fait, ça ressemble un peu comme à une visière de casque de moto, quoi. C'est transparent, mais t'as une espèce de truc devant.
Oui, parce qu'on le voit quand même, en fait. Enfin...
C'est transparent, oui, mais tu le vois quand même. Ça ne sert à rien, et ça a quand même été présenté à Las Vegas. Et donc, du coup, il y a un Français qui a fait le buzz, parce qu'il se dit quand même, c'est parfois un peu du grand n'importe quoi qui est présenté à Las Vegas. Et le buzz, c'est cette patate connectée. C'est Nicolas Baldec, inventeur grenoblois, qui a loué un stand pour présenter sa patate connectée avec laquelle on peut connecter son portable en Bluetooth ou lui poser des questions via Siri ou Alexa. Et en fait, c'est un gros canular et il a voulu justement se moquer des innovations parfois absurdes présentées sur le salon. Et on a eu pas mal d'articles. En tout cas, il a bien fait son buzz. Et effectivement, c'est assez intéressant de se dire la technologie avance. Mais alors parfois... pour quel prix ? Ça ne sert à rien. Il y a vraiment des choses assez importantes. Alors, autre chose, mais je ne vais pas le développer parce qu'on arrive à la fin de l'émission, et puis bon, il y a des enfants qui nous écoutent. Ce qui a fait aussi le buzz, c'est que maintenant, ce qu'on va appeler la sex take, c'est-à-dire l'univers notamment des sextoys, en clair, a également, j'allais dire, pénétré le marché et s'est présenté notamment à Las Vegas. Et il y a pas mal d'articles, parce que vous pensez bien, à partir du moment où on parle de science, de technologie et de sexe, ça fait vendre, mais il y a pas mal de choses et ça a fait beaucoup parler également le fait que cet univers des jouets sexuels connectés, entre autres, ont été présenter parce que on en rigole comme ça, mais alors derrière il y a un marché avec des milliards de dollars. Tu penses bien, Carole, que effectivement les gens ne rigolent pas tous là-bas parce c'est qu'il ça, y a oui. une tonne de fric à se faire.
Exactement.
Et que les innovations technologiques, alors ok, apporter ta bière ou apporter ton papier toilette, c'est rigolo, objectivement ça sert à rien, et puis on va pas payer pour ça. Autant dans l'univers du sexe, évidemment, là les gens sont prêts à payer, et derrière il y a bien sûr pas mal de start-up qui développent des choses assez innovantes. Je n'en dirai pas plus.
C'est à développer quand on aura plus d'informations.
Ben, on a plus d'informations, mais on va pas faire tout un article. Moi bon, j'en ai des articles, j'ai vu ça, mais voilà, je veux dire, derrière, d'un point de vue technologique, scientifique, il n'y a rien d'innovant. Oui, je veux dire, c'est pas du tout intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir derrière ce côté un petit peu commercial et marketing, avec l'idée que derrière...
Oui,
mais c'est ce qu'on dit souvent dans cette émission. Parfois, il y a aussi des histoires de gros sous derrière, faut pas se leurrer.
Souvent même.
Souvent, et donc du coup, Las Vegas avait, jusqu'à l'année dernière, volontairement fermé la porte à ce domaine-là. Et l'année dernière, il y a eu une controverse un petit peu parce que il y avait une start-up, je ne sais plus de quel pays, et qui avait reçu un prix, donc ça avait fait un peu, voilà, c'était un peu bizarre. Et puis à un moment, ils ont dit, bah, écoutez, on ouvre les portes, mais je pense qu'il y a dû y avoir un lobbying derrière pour faire en sorte que, voilà, on aborde aussi ce sujet-là, on montre des choses totalement innovantes, et derrière, ça va être des milliards de dollars qui vont être dans la popoche de certains ingénieux inventeurs. Voilà, Carole, c'est la fin de cette émission.
Mais merci Jean-Noël, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager le micro avec toi.
Mais écoute, plaisir qui se renouvellera donc la semaine prochaine,
tout
je l'espère.
Tout à fait.
Alors, on parlera peut-être de choses un petit peu plus... un petit peu d'animaux, Carole, j'ai envie que tu me parles
bien,
un peu.
Oui, je vais pouvoir trouver ça,
je
pas de problème.
Je compte sur toi. Et puis, on fera un petit tour dans l'espace. Et on parlera également, alors, rien que le titre que je voudrais essayer de retrouver, parce que rien que ça, c'est, voilà, c'est l'armée américaine teste la reconnaissance faciale, alors ok, donc jusque-là, on comprend, dans le noir. Et ça, rien
c'est intéressant.
Rien
ah, je
que
suis,
le
oui.
titre vous donne envie de nous retrouver la semaine prochaine sur l'antenne de Graphite. Merci Carole.
Merci Jean-Noël.
À la semaine prochaine, 12h sur graphite.net et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Bonne journée à tous, au revoir, à bientôt.